Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Si on n'a pas un gros budget mode, un gros budget shopping, je dirais toujours d'investir dans les bons accessoires. On peut porter des jeans, un pull ou un t-shirt, finir le look avec des accessoires et être outstanding, fashion, avec les accessoires.
Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à H&M. Bonne écoute.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, mon invité est une pointure en matière de mode et a un œil très très aiguisé sur le sujet. Très stylée, avec ses grandes lunettes noires forme aviateur, Véronique Tristram attire les objectifs des photographes à la sortie des défilés. Cette Française, expatriée à Munich, est directrice de la mode pour le Glamour Allemagne. Elle a été auparavant styliste en freelance et a passé une partie de sa vie professionnelle à New York. J'ai réussi à l'attraper au vol en pleine Fashion Week. Et c'est vrai que je suis très contente parce que c'est aussi ma copine. Bonjour Véronique.
Bonjour Valérie, je suis également très contente d'être ici.
Et depuis le temps qu'on devait chiffonner ensemble, j'ai réussi à t'attraper au vol.
Mais c'est vrai que quand je viens à Paris, bien souvent, c'est juste pour le travail. Et j'y reste pas longtemps, donc c'est difficile. Mais là, j'ai retardé d'une demi-journée mon départ pour pouvoir chiffonner avec toi.
Je suis fort touchée et je pense que ça va plaire à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours avant ton poste au Glamour Allemagne?
Alors, à l'origine, j'aurais dû devenir professeur d'allemand. En France, puisque j'ai fait des études d'allemand littéraire. Et je suis donc partie en Allemagne à la fin de mes études. Et c'est là que tout a commencé avec la mode. En fait, je me suis rendu compte, la mode, c'était vraiment chez moi une passion dès l'enfance. Je suis le genre de gamine qui, franchement, embêtait sa mère sans arrêt. J'avais déjà des idées bien arrêtées sur le sujet quand j'étais toute petite.
C'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, un de mes plus vieux souvenirs d'enfance, c'est maman qui voulait m'acheter une paire de bottes d'hiver. Et on habitait dans une petite ville à la campagne, tout près de Lille, dans le nord de la France.
Tu es une ch'ti, on peut
Je
le dire.
Je suis une ch'ti, voilà. Et on va dans le magasin de chaussures et la vendeuse nous montre toutes les bottes qu'elle avait. J'étais une petite fille, j'avais 4 ou 5 ans. Et moi, tout de suite, je tombe amoureuse d'une paire de bottes. Je les vois encore. C'est pour te dire qu'elles étaient grises, gris souris. Et elles montaient jusqu'au genou et elles avaient une fermeture éclair sur le côté et elles avaient un petit pompon de l'autre côté, sur le côté extérieur. Et j'ai trouvé très, très belle. Mais elles étaient assez fines et maman voulait quelque chose de plus chaud et de plus robuste. Donc, elle avait choisi pour moi une paire de bottes, de bottillons plutôt, lacés, marrons, avec une grosse semelle et bien fourrée à l'intérieur. Enfin, pas vraiment le modèle élégant. Et j'ai fait un tel cinéma dans le magasin pour avoir les bottes grises que maman, derrière mon dos, a fait signe à la vendeuse de nous emballer les deux paires de bottes et qu'elle rapporterait les grises le lendemain. Voilà le genre de gamine que j'étais.
Mais t'as dû t'en apercevoir.
Oui, bien sûr, mais je sais plus comment ça s'est passé après. Mais pour
t'as flashé sur autre chose après.
Sans doute, oui. Mais enfin, ce que voulait éviter maman, de toute façon, c'est que je fasse du cinéma dans le magasin, devant tout le monde. Après, bon, si j'ai fait une grosse crise à la maison, c'était ça, elle gérait. Mais...
Et petite, t'aimais déjà mettre des robes ou t'étais plutôt garçon manqué?
J'aimais bien les pantalons. J'aimais bien les pantalons parce que j'aimais bien bouger.
Et ado?
Toujours pantalon. Plus noir. Ouais, un peu rock'n'roll, je dirais. Mmh. Déjà, c'est là que ça a commencé. J'ai toujours été très, très, très branchée musique. Donc, j'avais choisi mon clan, quoi. Et les robes, c'est... Non, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, je porte une robe, mais...
Non, t'es plus souvent en pantalon.
Je suis plus souvent en pantalon, hein. Oui, c'est ce que je pense également.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours? Donc, comment t'as atterri en Allemagne? Tu voulais devenir prof?
Alors, je voulais pas devenir prof. J'avais fait des études d'allemand. Parce que c'est une langue que j'adore et j'ai toujours été très très littéraire. J'étais allée en Hippocagne et en Cagne et j'avais fait à l'origine j'avais commencé avec des lettres modernes et puis j'étais passée ensuite à l'allemand littéraire et en fait je faisais ces études mais j'avais absolument pas l'intention de devenir prof. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire. Mais je me suis retrouvée en Allemagne à la fin de mes études et pour gagner de l'argent, j'ai donc travaillé comme prof au lycée français de Hambourg. Et très vite, je me suis rendu compte que ça me plaisait, mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, c'était pas les élèves que je n'aimais pas, c'était plutôt mes collègues.
Désolée pour les profs qui écoutent Chiffon. Ouais.
Mais bon, il y en a certainement qui sont très bien. C'était pas, ils étaient simplement pas au lycée français de Hambourg, peut-être, je sais pas. Bon, toujours est-il que je me suis bien rendu compte que ça me plaisait pas trop, et j'ai donc cherché à rentrer dans la presse, dans un magazine de mode, quoi. Donc j'ai envoyé.
Et t'as réussi à y entrer facilement?
Non, je dirais pas que c'était facile parce que. À l'époque, en fait, les magazines préféraient prendre comme stagiaires des filles qui avaient fait des écoles de mode, ce que j'avais naturellement pas fait. Et mais avec un peu d'opiniâtreté, en fait, il suffit de pas lâcher le morceau, de les relancer sans arrêt. On y arrive. Je suis rentrée comme stagiaire à un magazine à Hambourg. J'étais à Hambourg à l'époque, qui s'appelait Petra. Je pense que ça existe encore, mais bon. C'est plus très... qui à l'époque était un bon magazine. C'était un bon magazine de... Enfin, ça avait un niveau convenable en Allemagne. L'Allemagne n'étant pas en matière de mode aussi pointue que la France. Je tiens à le préciser.
Peux-tu nous parler de ton métier, directrice de mode dans un magazine chez Condé Nast? En plus, ça fait rêver.
Oui, quand même, parce que quand on parle de magazine de mode, Condé Nast, ça a été très très longtemps la référence. Je pense que ça l'est toujours, d'ailleurs.
Et Anna Wintour, elle est sympa?
Alors, je ne la connais pas personnellement.
Tu l'as jamais croisée? Si, dans des défilés.
Si. Mais elle sourit. Oui, non, elle a l'air... Bon, et après, il y a les gens qui disent elle est pas sympa, elle fait toujours...
toujours la gueule.
Oui, elle fait toujours la gueule. Bah, je veux dire, je sais de quoi je parle parce qu'on me l'a reproché également. Et d'ailleurs, on me l'a reproché sur Instagram et dans les commentaires, il y a des gens qui ont pris ma défense en disant d'un autre côté, elle est toute seule, elle marche dans la rue. Bien souvent, tu t'esclaves pas en marchant dans la rue toute seule. Bon, eh bien, c'est exactement la même chose pour Anna. Elle est là, elle est sur le trottoir, elle va à un défilé. Elle va pas se mettre à rire parce qu'elle voit deux photographes devant. Donc, non. Et d'ailleurs, je sais pas, tu n'as pas vu son film, le film qui... Ça, il a 10 ans maintenant, ce film qui s'appelle September Issue.
Oui, oui.
Je trouve que...
Elle est très solaire. Hein.
Oui.
Voilà. Alors, t'as un super style. Et tu es aussi, pour moi, une vraie influenceuse. Comme je disais, c'est vrai que tu es souvent prise en photo par les photographes de street style dans la rue, à la sortie des défilés. Qu'est-ce que cela te fait si je te dis que tu inspires beaucoup de femmes?
Ben, forcément, je suis très flattée. Je suis très étonnée aussi, parce que, bon, c'est vrai, je pense que je m'habille bien, mais enfin, je suis pas la seule. Mmh. Non, moi, je pense que tout ça, ce sont mes lunettes.
Voilà, j'allais te demander. C'est ce qui fait l'ADN de ton style. En fait.
C'est avec ça que j'ai commencé à être prise en photo. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, ça s'est un peu calmé avec les photos, parce que là aussi, les photographes, forcément, il leur faut toujours de la nouveauté. Donc là, ils ont d'autres proies.
Tu étais sur une photo de vœux sartorialistes.
Oui, mais tu as vu que c'était pas moi qui voulais prendre photo. Hein. C'était le photographe qui me photographie.
Mais tu étais dessus quand même.
Qui était quand même dans une position bizarre, et je crois que c'est ce qui avait fait rire
Scott Schumann.
Voilà.
Et tes lunettes, alors c'est...
Alors, mes lunettes... J'ai essayé de faire d'un mal un bien. C'est pas toujours drôle de devoir porter des lunettes, de rien voir, enfin de pas voir grand chose quand on n'a pas ses lunettes. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des lunettes, ça fait combien de temps que j'ai des lunettes? Ça fait 13 ans que j'ai des lunettes. En début, je les mettais que pour lire, mais maintenant j'en ai besoin tout le temps, même de loin. Mes premières lunettes, c'était des pilotes, c'était des Tom Ford. Je les ai toujours au fond d'un tiroir. Et j'ai toujours eu comme ça des pilotes noirs. Et c'était pas évident de trouver des lunettes de vue comme ça, avec des montures chouettes. Il y en avait pas trop.
C'est hyper difficile de trouver des lunettes, voilà. Des bonnes lunettes de vue.
Et puis aussi, faut savoir ce qu'on veut. Faut pas trop écouter ce que disent les opticiens, parce qu'ils ont tendance toujours à vous dire, non, ça va pas du tout. Elles sont beaucoup trop grandes pour votre visage. Bon. Donc, je suis restée sur ces pilotes. Et puis un jour, c'était à Munich, en me promenant dans la rue, c'était en 2012, je vois à une vitrine des lunettes de soleil. Je m'arrête, tétanisée, coup de foudre. Alors, elles existaient en noir et en blanc. Je les ai achetées en noir. Je me suis dit, tant pis, quand même, dans la rue, l'été, je les mettrai. Bon, en fait, ces lunettes de soleil, j'ai dû les mettre trois fois parce que, comme je le dis, je ne vois rien. Et donc, quand j'ai dû changer mes verres l'année d'après, j'ai pris cette monture de lunettes pour en faire mes lunettes. Et là, j'ai tout de suite été photographiée partout.
Voilà. C'est drôle, c'est comme ça que ça a commencé. Une paire de lunettes.
Voilà.
Et alors, les gens. T'as essayé d'en changer il n'y a pas longtemps?
J'ai essayé d'en changer il y a 2 ans, mais.
C'est plus toi.
Je m'aimais moins. Je pense que j'ai besoin d'une monture lourde et j'ai besoin de noir. Je sais pas, ces lunettes me donnent un cadre. Et j'ai mis. Alors, ce sont des verres correcteurs, évidemment. Mais ce sont des verres également qui foncent quand je suis dehors. Donc les gens comprennent pas bien. Est-ce que ce sont des lunettes de vue? Est-ce que ce sont des lunettes de soleil? Donc ce sont des lunettes de vue. Mais comme je travaille, mon métier étant bien souvent d'être sur des shootings et bien souvent sur des shootings dehors, comme je travaille beaucoup dehors, donc.
C'est ultra pratique.
C'était ultra pratique d'avoir des verres qui se foncent dès que je suis dehors. Alors, c'est parfois un peu bizarre parce qu'elles se foncent même lorsque le temps est gris. Mm-hmm. Alors, les gens, il va sans doute y avoir des gens qui pensent que je me la pète parce que je me promène en hiver avec des verres foncés. Mais je suis désolée.
Mais il n'y a qu'une seule directrice de la mode du Vogue Allemagne. C'est toi, la directrice de la mode du Vogue Allemagne.
Alors, je ne suis pas directrice de la mode du Vogue, du glamour.
Du glamour, pardon.
Si ma collègue nous entendait...
Non. Du glamour. Voilà. Évidemment. Je ne me suis pas trompée tout à l'heure.
Voilà.
Alors, en quoi consiste ton métier? Je reviens à la question que je t'avais posée tout à l'heure.
Alors, en fait, mon métier, je dirais que c'est de... alors, il y a un travail de décryptage des tendances. C'est en fait un travail de... Je ne sais pas comment on dit en français, comme j'ai passé ma vie à l'étranger, de editing. Je fais la part des choses. On va au défilé, On voit toutes les collections, on voit quelles sont les tendances, et ensuite on choisit. Mm-hmm. On sépare le, comment dire en français, le bon grain de...
Oui, voilà. Ce qui va être portable ou pas.
Voilà, exactement. Et alors, c'est, voilà, c'est un travail de décryptage de tendance. C'est un travail également de, d'explication. Il faut expliquer aux gens qui sont pas stylistes comment on va porter les choses. Parce qu'évidemment, on va pas porter... Enfin, même les gens qui s'intéressent beaucoup à la mode vont pas forcément pouvoir porter le look tel qu'il a été montré sur le podium. Mm. Deuxièmement, tout le monde, c'est même la plupart des gens, ne vont pas porter les choses qui sont sur les podiums parce que ce sont des vêtements de créateurs qui sont beaucoup trop chers. Donc, il faut également... En fait, ce qu'on fait, c'est expliquer aux gens quelles sont les tendances et comment ils peuvent, eux, les porter. Mm-hmm. Quels que soient leurs moyens, quel que soit leur goût, quel que soit aussi leur... envie d'expérimenter, si elles sont plutôt, si les femmes qui vont porter les vêtements sont plutôt conservatrices ou sont, sont téméraires, tout ça, en fait, on leur, et puis on vend du rêve aussi, on vend des, quand on fait des productions, quand on fait des shootings, surtout les shootings en location, dans des endroits exotiques ou dans des endroits qui sont beaux, bien que ce soit pas encore trop mon truc. Moi, j'aime bien les shootings dans des cadres urbains parce que
la plage c'est pas ton truc.
Non, à la plage, je vais te dire une chose. À la plage, je mets un maillot de bain et un t-shirt et un short. Je trouve que bon, c'est pas. Je pense que la mode. C'est fait pour être porté en ville. Bon, mais moi, je suis une personne qui aime la ville. Donc, on peut sans doute porter de la mode à la campagne également, bien que dans les champs, je pense que... Et donc... mais on leur vend, en fait... je ne sais pas si on shoot à New York, dans la rue, et qu'on fait une production un peu avec la mode de la fin des années 70, ce style un peu comme ce que fait Edith Slimane en ce moment pour Céline. On leur vend... c'est comme un petit film, en fait. On leur vend une époque, on leur vend la vie d'une nana qui se promène dans New York avec ses grandes bottes et ses chiens. Elle est heureuse, elle est libérée. Voilà, c'est tout ça. On vend du rêve et en même temps, on fait des propositions vestimentaires.
Et que penses-tu de la Fashion Week là? Parce que toi, tu as assisté à New York, Milan, tu as fait la totale.
Oui.
Qu'est-ce que tu as relevé?
Alors, il va falloir... c'est toujours très difficile pour moi de dire comme ça à chaud, parce qu'on est encore pendant la Fashion Week. Je ne pourrais pas maintenant te donner les grandes tendances. Bon, j'ai déjà deux, trois idées. C'est plutôt ponctuel, d'ailleurs. Il semble y avoir un consensus sur le Bermuda. Le Bermuda assez long, le Bermuda qui cache le genou, en fait, qu'il soit en cuir ou en tissu. Il y a aussi quelques couleurs. Il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de blanc. Mais bon, ça, je vais voir après. Ce que je pense en ce moment... Quand même, c'est que il faut voir beaucoup de défilés, mais peut-être aussi c'est parce que je le fais depuis tellement longtemps que je suis j'ai moins d'enthousiasme qu'au début. Mais remarque, je pense pas parce que je suis quand même capable de m'enthousiasmer quand je vois vraiment quelque chose qui me plaît. Je dirais qu'en principe, sur chaque Fashion Week, que ce soit New York, Londres. Très important, Londres, Milan, Paris, il y a toujours à peu près 3-4 défilés qui l'emportent haut la main. C'est rare qu'il y en ait beaucoup plus. Tu viens pas à Paris et tu vois pas 20 défilés où tu penses « Oh mon Dieu, c'était un fashion moment ». Non, ça, non. Tu as toujours 3-4 défilés qui sont où tu te dis « Waouh ». Et c'est les moments où vraiment...
Et là, lesquels, tu en as un ou deux, que ce soit à New York ou à Londres ou à Paris même.
Alors, à New York, définitivement, Proenza Schouler. Bon, après, il y a des trucs que j'aime bien aussi. Il y a des, par exemple, Tibi, qui est une marque new-yorkaise que je porte beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est des choses qui sont...
C'est plus accessible.
C'est plus accessible. C'est mode, mais c'est pas trop expérimental. Et c'est facilement portable. Et alors, donc, il y avait Proenza Schooler, Philippe Lim avait une bonne collection à New York. Philippe Lim est pas... Il y a des collections que j'aime plus que d'autres. Celle-là, c'était définitivement une bonne collection. Après, à Londres, il y a eu évidemment J.W. Anderson. J'adore, je suis méga fan. Et c'est la deuxième collection en suivant que je trouve vraiment waouh. Christopher Kane, j'aime bien de manière générale. J'aime bien Victoria Beckham. En plus, j'adore la personne, Victoria Beckham aussi.
Alors, elle sourit, elle aussi ?
Alors, elle, non seulement elle sourit, elle rit, et je suis témoin, elle mange également. Parce qu'on a dit pendant un moment qu'elle était anorexique. Voilà. Ouais. Donc, pour avoir une fois dîné dans le même restaurant à la table d'à côté, je peux dire qu'elle riait avec son interlocuteur et qu'elle mangeait également. Voilà. Nous voici rassurés sur l'état de santé de Victoria Beckham.
On va revenir sur ton style.
Oui.
Quel est ton style ?
Quel est mon style ? Alors, déjà, j'aime pas être engoncée dans des vêtements, donc il faut qu'ils soient toujours un peu grands. J'aime bien le noir, même si de plus en plus je mets aussi du beige et du bleu marine. Je dirais que j'aime bien porter des classiques comme les trench par exemple. Je trouve que c'est un élément important de la garde-robe. Le trench, le caban.
Ce sont des bons basiques que tu conseillerais à toutes les femmes.
Exactement. J'adore les marinières, les pulls bretons. Mais ça, c'est peut-être parce que je suis française.
Ça fait très parisienne, en fait. Le mythe de la parisienne.
Oui. Et j'adore le cuir. J'aime beaucoup le cuir noir. Et j'essaie toujours de mélanger, en fait, des basiques avec des choses un peu plus rock'n'roll. Et je ne me sépare jamais de mon bracelet Hermès, hein, qui maintenant est vieux et commence à tomber en ruine. Donc
c'est un bracelet rock, on va dire.
Voilà.
C'est plus son nom.
Collier de
chien. Oui, le bracelet chien.
Ouais,
le collier bracelet chien. Collier de chien, voilà.
Voilà, exactement. Et c'est pareil. Et je pense que les chaussures sont très, très importantes. Ça peut complètement te détruire un look si c'est les mauvaises chaussures.
Et là, j'imagine les auditrices qui vont dire « Ah là là, mais qu'est-ce qu'il faut mettre alors ?»
Oh, qu'est-ce qu'il faut mettre ?
En chaussures.
Je veux dire, on met ce qu'on veut. Mais il faut par les chaussures, en fait, c'est facile de montrer qu'on est une modeuse. Ce qu'il faut faire par les chaussures, à mon avis, c'est un peu un break. C'est casser le style. Casser le reste de ton outfit. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, quand tu as un jeans et un sweatshirt ou un pull un peu oversize, dans ce cas-là, tu mets des chaussures très féminines.
Faut mixer.
Faut mixer, exactement.
Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire dans ta famille ?
Alors, je dirais que oui. Ma grand-mère maternelle était très, très coquette. C'est quelqu'un qui, selon ses moyens et selon l'époque, accordait beaucoup d'importance à ses vêtements. Elle achetait sans arrêt du tissu. Et elle regardait vraiment avoir de beaux tissus, non seulement de bonne qualité, mais des tissus un peu originaux. Et elle se faisait... J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance avec ma grand-mère. On passait des heures chez la couturière. Voilà. Ça m'ennuyait beaucoup à l'époque, mais...
Ouais, mais ça a peut-être fait ton œil, en fait.
Et maman, c'est pareil. Elle aimait bien dépenser de l'argent pour ses vêtements, je dois dire.
Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look ?
On m'a jamais donné de conseils.
Où est-ce que tu écoutes les conseils?
Sans doute qu'on ne m'en a jamais donné parce qu'on se doutait que je ne les écouterais pas.
Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing? Est-ce que tu es contente, tu en es fière ou tu es complètement tout le temps insatisfaite?
Non, non, je suis absolument pas insatisfaite. Je trouve, j'ai le problème que j'ai de manière générale, mais c'est avec mon dressing, mais c'est avec autre chose également, c'est avec les livres aussi beaucoup, avec les magazines. Je n'arrive pas à me séparer des choses. Donc oui, mon dressing est beaucoup beaucoup trop grand. En fait, ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est
appeler Marie Kondo.
Appeler Marie. Non, je ne laisserai jamais quelqu'un d'autre décider pour moi. Il faudrait que je sois suffisamment forte, que j'ai la discipline de me séparer d'une pièce à chaque fois que j'en achète une nouvelle. Or, je ne le fais pas.
Dans quelle tenue te sens-tu irrésistible?
Je pense que le fait d'être irrésistible n'a rien à voir avec ce qu'on porte. Donc, il n'y a pas de tenue dans laquelle je me sens irrésistible. Il y a des jours... Alors déjà, je ne me sens pas irrésistible. J'ai passé l'âge également d'être irrésistible.
Oh, quand même.
Mais c'est sûr qu'il y a des jours où on se sent mieux que d'autres. Et je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on porte. C'est l'humeur. Il y a des jours où on se sent joli. Et il y a des jours où on voudrait se mettre un sachet, un papier sur la tête. Bon. Mais ça, c'est les problèmes que tout le monde a, quoi.
Bien sûr. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais?
Je dirais de manière générale que je ne porte pas de choses très décolletées. Je n'aime pas.
Pour toi ou sur les autres?
De manière générale, je n'aime pas, je pense.
Et en parlant du regard des autres?
Ou alors, il faut vraiment pas avoir de poitrine. Je trouve que des décolletés avec poitrine normale, faut faire très attention, ça devient vite vulgaire.
Et quand on vieillit, on a la peau qui plisse un petit peu aussi, c'est moins joli.
Aussi, surtout si on a beaucoup pris le soleil.
Est-ce que tu as un souvenir d'un super fashion faux pas?
De moi?
Oui.
En tout cas, rien qui me vient spontanément à l'esprit, donc ça devait pas être très grave.
Tu t'en fiches en fait?
En fait, je m'en fiche.
Et le regard des autres?
C'est terrible. Je sais que quand je dis, en plus, mon mari ne me croit pas parce qu'il pense qu'on s'habille pour le regard des autres alors que ça fait 20 ans que j'essaie de lui expliquer que non.
Pourquoi on s'habille, selon toi?
On s'habille pour soi.
Bien sûr.
On s'habille. Enfin, pour moi, c'est très important de me plaire à moi. Voilà, c'est ça. Si en plus je plais aux autres, eh ben, tant mieux. Mais si je leur plais pas, c'est pas. C'est pas grave.
C'est pas ton
problème. On peut pas plaire à tout le monde, de toute façon.
L'accessoire est-il important pour toi?
Alors,
tu nous parlais de ton bracelet tout à l'heure.
Oui, l'accessoire, il n'est pas vraiment accessoire. Non, c'est important. On peut finir un look par des accessoires. Et surtout, si on n'a pas un gros budget mode, un gros budget shopping, je dirais toujours d'investir dans les bons accessoires. Parce qu'en fait, on peut... C'est super cliché parce que ça a déjà été dit 10 000 fois, mais on peut porter des jeans, un pull ou un t-shirt et finir le look avec des accessoires et être outstanding. Mm-hmm. Et faire de ces jeans et de ce t-shirt vraiment un look fashion avec les accessoires.
À propos de jeans, est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie?
J'aime bien les jeans de la marque Gold Sign, qui correspondent assez à ma morphologie.
C'est quelle forme de jean que tu as? Les jeans droits, les slim, les boyfriends?
J'aime bien les boyfriends. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, j'aime pas trop me sentir gênée, donc j'aime bien les boyfriends.
Tiens, qu'est-ce que tu penses du slim?
Je pense que oui, j'ai rien contre le slim. J'en ai mis également. Je mettrai toujours avec quelque chose de d'ample en haut. Là, je verrais vraiment avoir un pull ou un sweatshirt oversize parce que sinon, sinon j'aime pas, parce que de nouveau c'est trop volontairement sexiste, que je déteste, et ce qui en fait tombe vite dans la vulgarité plutôt que dans le sexy. Et mais oui, non, c'est bien quand bon, alors là c'est pareil, maintenant on raconte à tout le monde que quelle que soit la morphologie du corps, on peut tout mettre. Bon, oui, en effet, on peut tout mettre. Il y a pas la fashion police qui va venir derrière vous interdire de mettre ci ou de mettre ça. Bon, après, il faut que les gens se sentent bien dans leurs vêtements. Et moi, je penserais plutôt que un slim, ça va forcément mieux aux gens qui ont des jambes fines. Mais bon, après, c'est les gens qui voient, hein.
Chacun, oui, fait ce qui lui plaît.
Voilà, exactement.
Est-ce que tu t'es mis des interdits vestimentaires avec l'âge ?
Ben, j'ai essayé, je me dis quand même peut-être la mini-jupe à partir d'un certain âge. Mais d'un autre côté, je déteste les interdits. Alors, de temps en temps, je succombe, voilà. Mais dans ce cas-là, j'essaie de les mettre ou avec des... avec des leggings ou avec des gros collants.
Toujours en décalé.
Et puis des bottes, donc dans ce cas, des bottes un peu sport, un peu...
Combien de temps tu mets pour te préparer le matin ?
Eh bien, ça dépend, parce que là aussi, bien que styliste, ben, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Il y a des jours où c'est 2 minutes dans la garde-robe parce que je sais tout de suite ce que je vais mettre. Et puis, il y a des jours, je me change 3 fois le matin quand même, parce que je ne suis pas contente et je me dis « Ah non !» Parce que je me sens pas bien dans le vêtement, donc je dirais que de manière générale, je passe beaucoup plus de temps à la salle de bain que dans le dressing. Mmh. Dans le dressing, c'est quand même relativement rapide.
Quel est le vêtement qui, selon toi, sublime n'importe quelle femme ?
Oh, de manière générale, je dirais que une petite robe noire, ça va à tout le monde. Mmh.
Quel est ton dernier achat ?
Mon dernier achat, ce sont les chaussures de Daisy Duck, là, de Bottega Veneta.
Quel est ton prochain achat ? Est-ce que tu as un truc en tête ?
Non. Là, je pense que pour la saison, là, je suis bien.
T'es raisonnable.
Oui, je suis assez raisonnable. Bah, tu sais, déjà, le fait de travailler sans arrêt avec les vêtements.
Mmh. T'as pas une overdose parfois ?
Parfois, si. Dans la mesure où je me dis, bon, allez, c'est le week-end, c'est le soir, j'ai pas envie de feuilleter un magazine de mode, par exemple. Là, j'aimerais franchement faire autre chose. Mais les vêtements par eux-mêmes, quand je travaille, non, j'ai absolument pas d'overdose et je suis contente. Et ce que je voulais dire, c'est que comme ces vêtements, je les côtoie pendant une saison. Mmh. Alors, souvent, au début, quand on voit les défilés, on se dit, oh là là, ça, c'est génial, je vais me l'acheter la saison prochaine, quand ce sera en boutique. Et je travaille toute la saison avec ces vêtements, et c'est un peu comme si je les avais eus, donc j'ai plus besoin de les acheter. Mmh. Donc, je fais des économies.
Vu comme ça, c'est pas mal. T'achètes en ligne ou en boutique ?
J'achète pas mal en ligne. J'achète sur, c'est toujours les mêmes, hein, Matches, My Teresa, Net-à-Porter. Mais je vais également dans les boutiques. J'aime bien, je trouve que c'est dommage qu'il y ait plus suffisamment de boutiques multimarques parce que, tous ces mono brand, bon, surtout ces boutiques, c'est un peu dommage parce que qu'on soit à Munich, à New York, à Paris, il y a un tel branding toujours qu'on rentre dans la boutique, ça pourrait être n'importe où. Toutes les boutiques sont pareilles.
Une uniformisation de la mode.
Voilà, donc ça gâche un peu les joies du shopping. Ceci dit, je suis pas une grande shoppeuse, hein. Donc, en principe, maintenant, comme les multimarques, donc ça n'existe plus beaucoup, je dirais que, par exemple, ces chaussures Bottega Veneta, je les ai achetées au store Bottega Veneta à Munich. Voilà, je savais exactement ce que je voulais. Je les avais commandées parce que j'avais peur qu'il n'y en ait plus, qu'il y ait une waiting list. Donc, et on m'a appelée en me disant qu'elles étaient arrivées et je suis allée les chercher. Voilà.
Toi, justement, qui voyages beaucoup, qu'est-ce que tu penses du mythe de la Parisienne ?
Ben, c'est pas vraiment un mythe. Hein. C'est la Parisienne, elle est pas comme la New-Yorkaise, elle est pas comme la Londonienne, et elle est certainement pas comme la Munichoise. C'est pas un mythe. Je pense que il y a quand même, certains traits de caractère qui sont communs à pas mal de femmes à Paris, à mon avis. Un peu une certaine décontraction, mais pareil quand même avec une envie de plaire. C'est une attitude qui souvent est assez cool. Par exemple, bon, tu n'as pas d'auditrice à New York, j'espère. Je laisse
si,
parce que...
Si, si. Mais vas-y, tu peux. Ben, tu vas dire qu'elles sont super apprêtées.
Voilà. Elles sont pas du tout cool.
Et les Allemandes ?
Ben, les Allemandes, elles peuvent être sublimes, mais...
Tu cherches tes mots.
Non, oui, parce que je voudrais pas... elle essaie pas de... C'est pas une séductrice comme la française. Mais de manière générale, on accorde quand même moins d'importance à la mode en Allemagne qu'en France. Mm-hmm. Ou qu'en Angleterre, par exemple.
Elles sont plus naturelles, plus cool.
Non, je pense qu'elles ont d'autres... Elles vont... Bah, par exemple, les Allemands vont dépenser beaucoup plus d'argent pour des voyages, pour des voitures, que pour des vêtements.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
L'élégance, c'est se sentir bien, c'est pas être tape à l'œil, c'est pas faire de bruit autour de soi avec son look, que ce soit avec son look ou avec ses manières, c'est être naturel, c'est jamais avoir l'air déguisé.
C'est un ensemble.
Voilà, c'est être fidèle à soi-même en fait.
Alors toi, directrice de la mode, du glamour, Allemagne, je ne me suis pas trompée. Quel est le must-have à avoir dans notre garde-robe pour cet automne-hiver ?
Des bottes ou des boots qui sont qui vont assez haut sur la jambe, qui sont pas trop, qui s'arrêtent pas à la cheville. Une longue robe dont l'ourlet vient flirter justement avec les boots ou les bottes. Enfin, tout ça, ce sont mes must-have. Hein.
Oui,
c'est ce que moi je et qu'on va porter peut-être avec une pièce cool en haut, comme un veston d'homme oversize. Voilà, ce serait mes must-haves.
Merci. Alors maintenant, on finit. Tu n'as le droit qu'à une seule réponse.
Oui.
Le comble du mauvais goût.
Le comble du mauvais goût, c'est en faire trop.
Et le bon goût ?
Savoir s'arrêter à temps.
Si tu étais une couleur ?
Probablement le noir.
Si tu étais une forme de pantalon ?
Ou les boyfriend jeans ou les cargo pants.
Si tu étais une chaussure ?
Je serais des boots à talons pas trop haut, mais quand même avec un petit côté sexy et rock'n'roll.
Si tu étais une matière ?
Le cuir.
Si tu étais un vêtement ? Tu devais garder un seul vêtement.
Quelque chose en cuir.
Si tu étais un sous-vêtement.
Alors là, ce serait, je peux dire exactement ce que j'aime, les sous-vêtements. Il faut qu'ils soient en mèche. Comment on dit en français ? Tu sais, en tulle.
Mm-hmm.
En tulle, noir, tout simple, surtout pas de dentelle et de broderie, de choses comme ça. Je déteste.
Simple.
Simple.
Si tu étais un accessoire ?
Je serais mon bracelet.
Si tu étais une héroïne ?
Je serais...
Tu peux dire Joker, hein, parce que beaucoup de femmes sèchent.
Je serais Elisabeth Badinter.
Elisabeth Badinter !
Voilà, c'est mon héroïne.
Un adjectif qui te caractérise ?
Eh bien, je pense que j'ai de l'humour.
Ah, je le confirme. Merci infiniment Véronique.
Mais merci Valérie.
Je tiens aussi à remercier les partenaires de cet épisode, H&M ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.
Vous avez raté un épisode de Chiffon. Voici des extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Valérie de Saint-Pierre.
J'ai deux vêtements fétiches que je me suis fait faire chez un tailleur africain à Harlem. Moi, j'avais une robe que j'ai fait dupliquer dans un super tissu africain. Il ressemble à un tissu japonais. Et dans cette robe, je me sens super bien.
JJ Martin.
I mean, les Parisiennes, they are the chicest women on the planet. Very sophisticated, very polished, obviously.
Lily Barbery-Coulon.
Je suis pas très à l'aise avec l'idée d'acheter tout le temps quelque chose de nouveau alors que mon placard est plein. Ou bien que je peux me faire prêter une tenue par une de mes amies si j'ai besoin d'avoir une très jolie robe, on peut s'échanger des trucs, donner une seconde vie. On peut pas continuer comme ça.